Vous êtes sur RTL.
13 au 15 mars.
RTL sort 18h42. Elle publie La Marche du Crabe aux éditions Michel Lafon. Thomas, vous recevez Séverine Servat de Rugy et c'est sa toute première prise de parole.
Nous sommes le 10 juillet dernier. François de Rugy est encore ministre de la Transition écologique. Ce jour-là, Mediapart publie un premier article dans lequel il l'accuse d'avoir organisé des dîners fastueux alors qu'il était encore président de l'Assemblée. Il y est question de homards et de très bons vins, le tout illustré par des photos gourmandes. Dans les jours qui suivent, Mediapart feuilletonne ses révélations, évoquant notamment un dîner de Saint-Valentin ou encore des travaux de rénovation fastueux engagés dans ses appartements de fonction. Quelques jours plus tard, François de Rugy annonce sa démission du gouvernement. Jusqu'à ce soir, son épouse Séverine Servat de Rugy avait refusé de s'exprimer parce qu'écrit-elle dans son livre, dans la cacophonie, la parole d'un intéressé devient inaudible. Ce soir, elle a décidé de parler et elle a choisi RTL Soir pour le faire. Bonsoir Séverine Servat de Rugy.
Bonsoir Thomas Soto.
Bienvenue dans RTL Soir. Ma première question, elle est toute simple. Pourquoi avoir décidé d'écrire et de parler maintenant? Quel est le but de cette démarche?
Effectivement, je trouvais qu'en fait, prendre la parole dans l'immédiat de ce qui nous arrivait, c'était tous les communicants s'accordaient pour dire que c'était inaudible. Mmh. Et en fait, le fantasme avait pris le pas sur la réalité. Donc, il fallait pouvoir sortir, en l'occurrence, d'une image fantasmatique qui était celle du homard, parce que l'image allait beaucoup plus loin que n'importe quelle explication rationnelle. Mmh. C'est un peu ce qu'on constate dans l'emballement médiatique en général.
Mais pendant les quelques 200 pages du livre, vous démontez tout ce qui s'est passé, tout ce que raconte Mediapart. Du coup, avec le recul, on se dit, mais pourquoi avoir démissionné? Est-ce que ça ne sonnait pas comme un aveu, une sorte de reconnaissance de culpabilité? Pourquoi être parti? Pourquoi avoir cédé?
Vous savez, en fait, j'ai écrit ce livre parce que précisément, j'étais témoin de l'envers du décor. Mmh. Alors d'abord, c'est un peu ça que...
Et vous le racontez, dis, et on va y
voilà,
venir.
Voilà, on y reviendra. Et d'autre part, c'est vrai que je comprends que ça ait pu paraître incompréhensible. On était dans un contexte social quand même particulier, celui des Gilets jaunes, avec une colère sociale, d'ailleurs, qu'on peut comprendre et qu'en tout cas, on constatait qu'on vivait. Et par conséquent, et l'exercice du métier de ministre, c'est un exercice de tous les instants. Il n'y a pas de répit. D'ailleurs, c'est ce que j'explique. Hein. Il y a très peu de vie privée. Et on est empêché dans son exercice quand une sorte de en quelque sorte de presse à scandale s'empare d'un symbole et le monte en épingle de cette façon. C'est-à-dire au quotidien, on ne peut plus s'occuper efficacement de la France. Alors soit on dit c'est pas grave, hein, on va faire avec, etc. Soit on est très responsable.
Mais est-ce que défendre la démocratie, c'est pas tenir et d'une façon ne pas céder à ce que vous dénoncez comme un chantage? Vous racontez que vous avez été balancé à Mediapart par une amie à vous, une femme que vous connaissiez depuis presque 20 ans, que vous aviez invitée à venir passer Noël le soir des fameux homards et qui aurait voulu se venger. C'est ça?
Oui, alors ça, c'est un peu l'écume des choses et c'est une réalité parce que les homards, c'était le soir de Noël. En 14
c'est quand même
mois...
le déclencheur de tout. S'il n'y a pas les homards, il n'y a pas l'affaire.
Absolument, oui. C'est-à-dire qu'en 14 mois à l'Assemblée nationale, il y a une fois où sont servis des homards. Nous n'avons pas de cuisine dans notre logement de fonction. Nous ne validons pas les menus.
Alors ça, c'est étonnant. Vous racontez ça. Vous dites le ministre ne choisit pas ce qu'il mange.
Oui, non, parce qu'en fait, on a une espèce de... En fait, et c'est pour ça qu'il faut... Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, un peu pour parce que je me suis aperçue qu'il y avait une énorme méconnaissance, en fait, des fonctionnements. Et moi-même, je ne les connaissais pas. Mais je m'apercevais que chez les journalistes politiques, chez les commentateurs, il y avait aussi cette méconnaissance. Moi, je suis journaliste people, donc c'est autre chose. Mmh. Mais ça, je m'apercevais que chez mes confrères, c'était pas...
Mais là, on se dit, c'est peut-être un peu gros, parce que même à la cantine d'RTL, on choisit ce qu'on mange, quand même. Le ministre, on lui apporte son plateau repas, on lui dit c'est ça et c'est pas autre chose.
Ah, bah oui, parce qu'à la cantine d'RTL, j'imagine que vous choisissez, vous passez devant différents plats et donc vous servez. Alors que là, en fait, c'est un chef qui prépare des quantités de plats pour les collaborateurs. Donc, en fait, on mange la même chose que les collaborateurs. En fait, il y a une chose, c'est qu'on donne les préférences alimentaires, ce qu'on n'aime pas. Donc, par exemple, si vous n'aimez pas les artichauts, vous n'aurez pas d'artichauts. Bon, en l'occurrence, ça a été inaudible, mais c'était les crustacés. Bon, voilà, pour vous dire qu'il y a des failles et que nous ne sommes pas si au centre du système, puisque précisément, cette sorte de chose peut arriver.
Alors, il y a eu un rapport commandé par le président de l'Assemblée, le successeur de François de Rugy, et qui dit que sur une douzaine de dîners examinés, seuls trois n'auraient pas dû être imputés au budget de l'Assemblée nationale, que les autres ne posaient pas de problème. Pourquoi cette personne, votre ami, enfin votre ex-ami a voulu vous balancer. Pourquoi ? Mais elle se venge de quoi ? Parce que c'est important pour comprendre. Et vous racontez dans le livre que votre mari, François de Rugy, n'aimait pas cette fille et que vous l'avez invitée à Noël parce qu'elle était seule, parce qu'elle n'était pas bien et que, en gros, pour faire une bonne action.
Oui, c'est vrai. Elle était en situation de détresse. Moi, je suis humaine. J'avais pas l'habitude de l'hyperméfiance nécessaire à l'exercice du pouvoir. J'avais rencontré François. C'était une histoire d'amour. Moi, je n'ai pas participé à une conquête du pouvoir. Ça n'était pas dans ma personnalité. J'ai essayé de rester dans une forme de normalité, en quelque sorte. Ce qui est assez incompatible, en réalité, avec les sphères dans lesquelles nous étions. J'ai limité autant que possible ce que je pouvais considérer comme des risques. Mais là, effectivement, humainement, moi, je les considère en détresse. À Noël, parfois, j'ai l'habitude d'inviter... Alors, pourquoi ? Parce que, c'est la question que vous m'avez posée, parce qu'en fait, et ça, c'est un chapitre aussi, elle m'avait demandé des faveurs.
Et vous racontez qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent des faveurs.
Oui, mais alors, vous savez quoi, après, en fait, il n'y a pas d'équivalent, j'ai pas lu, moi, de livre, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui fasse ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai un petit manuel et qu'il y ait une femme d'homme politique qui écrive un livre et ça m'aurait peut-être prévenu des potentiels dangers, trahisons auxquels on est exposé et à quel point. Et par exemple, toutes les faveurs, vous pouvez, par capillarité, on vous prête un pouvoir quand vous êtes l'épouse d'un homme, d'un responsable politique, surtout à ce niveau-là. Et le nombre de faveurs qu'on vous demande, et si vous les refusez, vous vous attirez évidemment des inimitiés.
Donc elle veut se venger, mais ça veut dire quoi ? Que dans votre esprit, Mediapart s'est fait instrumentaliser par cette femme. C'est, l'enquête de Mediapart repose quand même beaucoup là-dessus, en tout cas au début. Donc elle est là à ce fameux dîner, elle prend des photos parce que vous êtes entre copines, pour faire simple. Elle balance les photos et c'est ça qui est la base de l'enquête de Mediapart.
Bon, vous savez, Mediapart, il fonctionne sur la délation. D'ailleurs, parfois, le journalisme, enfin actuellement, sur la politique, on a pu s'en apercevoir, c'est la délation. Les sources, c'est un échange de bons procédés. Parfois, on protège certaines personnes. Moi, je pense que c'était un peu plus global. Ils ont eu l'aubaine d'avoir quelqu'un avec qui j'avais refusé des faveurs et qui avait aucune moralité. Mais bon, ça, c'est pas leur problème, la moralité de leurs sources. Et d'autre part, ça se greffait peut-être à des intérêts qui protègent. Voilà, moi, c'est mon, c'est tout à fait mon idée. Quand on est un ministre de la transition écologique,
quelle
on dérange beaucoup
de
personnes.
On vous demande.
Ah bah bon, alors les faveurs, ça peut aller d'un contrôle fiscal, et je me suis aperçue donc en discutant avec d'autres conjointes que c'était très courant. C'est assez peu cité. On demande de faire sauter un contrôle fiscal. Vous partez en vacances, votre fils, son passeport n'est pas à jour. On vous appelle pour voir si on peut avoir un passeport de dernière minute. Un changement d'académie pour un enfant. Ça va vraiment, c'est ce que je dis, c'est une sorte d'inventaire à la Prévert. Et c'est tout un chapitre que j'ai fait et qui est quand même, qui est sidérant parce que il y a des gens qui vous appellent, qui vous ont pas vu depuis 20 ans.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous racontez à quel point vous avez détesté cette vie dans les appartements de fonction, cette vie que vous n'avez pas choisie. Vous expliquez que votre rôle était celui d'un bon petit crabe, ce crustacé un peu moins noble que le homard et qui a pour particularité de marcher de côté sous sa carapace, à la fois en retrait et cependant toujours à portée de viseur. Et vous écrivez également, quand on est l'épouse d'un responsable politique, il ne s'agit pas d'une promenade de santé ou d'une gentille petite incursion tout frais payée dans un univers 5 étoiles. C'est une expérience violente, viscérale, incroyable et à laquelle on n'est pas préparé, une vie sous tension, sous pression. Qu'est-ce qu'il y avait de si pénible et de si douloureux ? Parce que là, pour le coup, il y a un contraste énorme entre l'image qu'on peut avoir de l'extérieur et ce que vous racontez en l'ayant vécu de l'intérieur.
Vous savez, quand on est journaliste, comme c'est mon cas, c'est votre cas, on choisit parfois, enfin on a une certaine liberté de parole, de pensée, d'expression. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de transmettre. Donc là, tout d'un coup, parce que vous avez épousé quelqu'un qui représente un certain nombre de responsabilités très importantes, vous devez quand même surveiller en permanence vos propos qui peuvent être interprétés. La preuve, d'ailleurs, c'est que les conjoints sont souvent les maillons faibles. C'est-à-dire, si vous regardez un petit peu les affaires récemment, souvent tout ce qui est vie privée, conjoint, on devient des espèces de cibles, un petit peu moins entraînées probablement, un petit peu moins...
des cibles plus faciles à abattre ?
Oui, parce qu'on est probablement un peu moins entraîné à la violence, un peu moins... je ne sais plus comment, si on dit carapassonné, enfin je veux dire...
Carapassé
voilà. Qu'un passé. Ah ouais, je suis désolée. Bon.
Et il y a aussi dans ce livre, alors il y a beaucoup de choses, on n'aura pas le temps de tout voir et il faudra le lire. Vous avez cette obsession de vous montrer comme une femme normale. Hein. On apprend que dans votre portefeuille, vous avez des cartes de fidélité Castorama et le roi Merlin. Et puis vous réservez quelques lignes à ceux qui vous ont flingué. Mention spéciale à Benjamin Griveaux, à Gabriel Attal et aussi à ceux qui connaissent la probité de François et qui se sont tus. Écrivez-vous à qui en voulez-vous le plus au final, ceux qui ont flingué ou ceux qui se sont tus et qui ne sont pas venus à votre rescousse?
Écoutez, je pars du principe qu'on ne peut pas en vouloir tant que ça. Parce qu'en fait, moi, ma réponse, elle est dans ce livre. Je donne quelques clés. J'explique, il y a des violences. C'est pas grave, enfin, on peut déterminer. Moi, effectivement, j'ai des noms en tête, etc. On peut reconnaître.
Vous donnez des profils, mais vous ne mettez pas de nom dans le livre.
Oui, et ben, si on creuse un peu, on peut reconnaître certains personnages. Mmh. Voilà. Maintenant, c'est le jeu. On ne peut pas être à ce niveau de pouvoir et être entouré d'amis. C'est complètement impossible.
Vous avez fait lire le livre à François de Rugy avant sa publication?
Oui.
Il en a pensé quoi?
En tout cas, c'est un livre sur lequel j'ai travaillé seule. Je tenais évidemment à ce qu'il en ait connaissance. Moi, je crois qu'il était peut-être un peu surpris.
D'abord, vous avez fait effacer des choses ou rajouter des choses?
Eh ben non, parce qu'en fait, il est très... d'ailleurs, c'est tout à son honneur. Non, pas du tout. Il m'a laissé... D'abord, je connais peut-être pas tant de responsables politiques qui laisseraient leur épouse s'exprimer comme il m'a laissé le faire. Donc, ça montre qu'il y a une espèce de parité dans notre couple hein, et d'écoute de part et d'autre.
Quand même, on est en 2020, c'est pas... anormal qu'une femme s'exprime.
Oui, mais Thomas Soto, en 2020, vous vous apercevez bien qu'il y a plein de mouvements féministes qui soulignent que nous n'en sommes pas tout à fait, par exemple, à l'égalité salariale, etc. Vous savez ça. Donc moi, je suis assez féministe. Donc non, moi, je souligne que justement, ça, c'est par exemple, je lui en sais gré. Moi, il m'a laissé finalement m'exprimer.
Si demain on lui propose un nouveau poste de ministre, vous lui direz quoi? Vas-y, on y va ou surtout pas plus jamais?
Moi, je lui dirais que il s'est battu toute sa vie pour ça. C'est le combat de sa vie, l'écologie, la responsabilité. Je l'ai vu y consacrer l'ensemble de sa vie. Ça n'est pas un métier comme nous les connaissons. C'est un sacerdoce, la politique. Il y a vraiment une décrédibilisation des politiques, il y a une présomption de culpabilité sur les politiques qui est un peu navrante, parce que quand on le vit, d'abord la vie privée passe à la trappe. Donc moi je lui dirais, bien sûr, vas-y, évidemment. Et moi, après, je composerai avec ma propre vie, comme je l'ai fait pendant les années où il a été au pouvoir.
J'en suis venu tout naturellement à m'interroger sur mes propres pratiques, écrivez-vous. Vous êtes journaliste, vous avez d'ailleurs continué à l'être pendant toute cette période ministérielle. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de faire votre métier, Séverine Servat de Rugy?
Oui, ça m'a interrogée effectivement sur la façon dont je voyais les choses. Peut-être que ça m'a permis, enfin, même si j'ai pas tout à fait, comme je traite de l'humain, du people, des phénomènes de gloire, des personnalités iconiques, c'est un peu différent hein, de ce qui est l'actualité et les news pures. Hein, donc je considère que c'est un peu différent. Mais quand même, je me suis dit qu'il fallait que je respecte, que je fasse plus attention encore, que je mette toujours plus en perspective ce qui pouvait se passer pour les personnes que j'interrogeais. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand je les rencontre aujourd'hui. Je pense qu'elles savent aussi que moi-même, je suis plus à même de comprendre. Et pourtant, je l'observais, ce qu'est le phénomène de la gloire, les injustices, les rumeurs, les on-dit, tout ce qui peut s'écarter de la vérité. Il faut vraiment essayer de le... On est humain. Donc on fait tous des fautes dans l'exercice de notre métier, mais on essaye de réduire la voilure sur ça, et moi j'essaye de la réduire et d'être le plus juste possible aujourd'hui.
Vous êtes guéris l'un et l'autre, vous avez cicatrisé l'un et l'autre ou pas, ou il reste des traces?
Pour ce qui me concerne, ce livre est une forme de réparation, puisque j'ai pu dire la vérité à laquelle j'avais assisté, et pour moi c'était fondamental. Pour ce qui concerne François, ça a été, je vais pas vous mentir, ça a été un choc. C'est un choc de passer à presque un trop-plein d'activité à tout d'un coup, quelque chose qui s'arrête. Donc derrière, il y a une reconstruction. Cette reconstruction, elle passe aussi par ses convictions. Et donc, aujourd'hui, il les vit un peu différemment, avec peut-être moins d'action au quotidien. Moi, je pense que c'est pour lui, et c'est ce que je vois, c'est l'occasion de réfléchir.
Donc, vous êtes guéri, vous, oui, et lui, pas encore, si je résume.
Si, je pense que c'est, on passe de l'action à la réflexion, et les hommes politiques ont besoin de réflexion, Thomas Soto.
Merci Séverine Servat de Rugy d'être venue ce soir nous présenter La Marche du Crabe, livre de témoignages qui sortira demain chez Michel Lafon. Merci à vous.
Merci. RTL Soir, 18h57.
Et RTL Soir.